m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis et merci d'être nombreux à nous écouter chaque samedi. Vous le savez, du marché à la cuisine en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation. C'est ici que ça se passe, nos bonnes adresses, les coups de fourchette de nos invités. Le menu est varié hein, jusqu'à midi et demi. Alors on va commencer par une virée au marché dans la banlieue lyonnaise, tout à l'heure à Oullins. Vous êtes au courant, hein, les prix augmentent au rayon pâte comme le pain chez nos boulangers. Alors on va vous expliquer pourquoi et surtout si ça risque de durer. Notre dossier de la semaine est consacrée à la cuisine d'automne chaleureuse et réjouissante. Amandine Chéniaud, qui est une chef inspirée, sera avec nous. Et voici mes bons vivants du jour. Entre les marrons et les champignons, son cœur balance. Elle a de la chance. Les chefs lui cuisinent à toutes les sauces. C'est Charlotte Langrand du journal du dimanche. Bonjour Charlotte.
Mais bonjour Laurent. Oui, je n'ai pas besoin de choisir. Moi, je prends tout.
C'est combien parfait. De restos vous avez fait cette semaine?
Ne m'en parlez pas. Cette semaine, c'était beaucoup.
C'était un marathon du restaurant.
Ouais.
Il a fait entrer sa joue de bœuf confite au patrimoine immatériel de la grande régalade, le bistronome Yves Candebord est des nôtres. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent.
J'aime vous voir la mine réjouie. Vous avez déjà mangé, je ne dirai pas quoi, on va en parler dans un instant. La bavette autour du cou, la serviette.
Laurent, c'est important d'avoir un bon petit déjeuner bien équilibré. Et vous allez voir, ce petit déjeuner,
oui, et il, est 11
heures. Il a du goût.
Il est 11h hein, pour le petit déj. Et sur les coups de midi, nous partagerons une brandade de morue avec l'humoriste Jonathan Lambert. Il adore ça. Vous connaissez le rituel, hein, chers auditeurs. Quel est votre goût de la semaine? Posez-vous la question en voiture, à la maison ou en écoutant le podcast. Je vous la pose à vous, Charlotte Langrand, qui avait testé au moins, je crois, 72 restaurants
oui,
en 5 jours.
Au bas mot. Écoutez, bah, justement, pour changer.
Mais quel appétit!
Oui, oui, peut-être un peu trop. Hein. Alors, j'ai envie, pour changer, de vous inciter à plutôt écouter un podcast qui s'appelle Petite Graine et qui est disponible sur la plateforme Deezer. Il est adressé aux enfants pour leur rendre la consommation des fruits et légumes un peu plus attrayante. Et ce sont pour cela des acteurs qui incarnent le potiron, le brocoli, la carotte, la clémentine, qui se racontent, leur racontent les histoires
Bonne
qui
idée.
Sont leurs bienfaits. Et ensuite, deux super chefs, Chloé Charles et Romain Médère,
ah oui.
qui prennent le micro et qui leur expliquent des petites recettes comme ça à faire avec leurs parents, avec ces fruits et légumes en question, pour comme ça, pour leur donner envie, leur raconter des histoires et les incarner. Je trouve ça super. Ça s'appelle Petite Graine sur Deezer.
Très belle idée. Romain Médère, qui est venu d'ailleurs à cette table,
oui.
qui a mis en place le concept de naturalité, cher à Alain Ducasse, et qui travaille
ouais.
toujours
et Chloé Charles
aux côtés
aussi,
du grand chef. Absolument. Votre goût de la semaine, Yves?
Moi, j'aime pas tellement les changements. Hein. Moi, c'est toujours pareil. Et en ce moment, c'est la saison. Le saucisson de Lyon, le saucisson à cuire.
Oh.
C'est goûteux. Et alors, je me suis amusé à préparer une recette. J'ai pris, Laurent, 20 centilitres de vin, 5 centilitres de vinaigre, j'ai fait bouillir, j'ai posé mes tranches de saucisson dedans. Elles sont imprimées un peu de ce nectar.
Mm.
J'ai pris une petite salade de choux, des patates, des carottes.
Le saucisson à cuire,
ouais.
lyonnais. Hein.
J'ai tout ébouillanté ouais. et ça me fait une entrée,
ouais.
tout en vivacité, tout en fraîcheur.
Ah, tu m'étonnes.
Et c'est pour ça, Laurent, que je suis de bonne humeur. Un bon petit déjeuner amène un bon
petit
humeur.
Déjeuner, c'est
et c'est contagieux parce que
et
je viens de m'en payer une bonne tranche et il est très réussi. À ne pas confondre avec le Jésus de Lyon qui est un saucisson sec. Hein.
Quoi, tout à fait.
Et vous, Laurent, je crois que votre goût de la semaine...
Vous y étiez, alors
oui,
j'en parle à nos auditeurs. Tiens, parce que souvent, j'en parle et on croit que je blague quand je parle de cette amicale, mais je vous assure qu'elle existe. Nous avons ouvert la semaine, lundi, avec un beau déjeuner, un beau banquet à Montmartre, dans un restaurant qui s'appelle La Bonne Franquette, où a lieu la République de Montmartre. Et nous étions réunis pour l'amicale du gras. C'est une amicale qui existe, avec des gens qui aiment manger de la saucisse, qui aiment manger de la terrine, du pâté en croûte.
Des gens normaux, hein.
Il y avait beaucoup de charcutiers qui venaient de toute la France. C'était à Montmartre, ça fait partie des belles balades quand on est provinciaux et qu'on vient à Paris. Il faut vraiment aller faire un petit tour à Montmartre. Il faisait gris, un petit peu de brouillard. On s'est réjoui comme ça avec des oreilles de cochon cuites avec un bouillon de gingembre par Johan Lastre, qui est un grand charcutier parisien. C'était délicieux. Et ben, ça donne la patate pour démarrer la semaine. Vive le gras et l'amicale du gras de Frédéric Grasser-Hermé, qu'on salue et qui a eu la bonne idée de réunir. Voilà, c'est ce que vous aimez, Yves. C'est ce qu'on dit souvent à cette table. C'est la joie, c'est le plaisir de se retrouver.
C'est la joie, c'est
le côté confrérie, vous voyez.
Confrérie, voilà. Et puis c'est surtout le côté échange. Voilà. Alors j'ai eu la chance d'avoir le grade d'honneur
vous,
il y a quelques
années. Vous avez statut, absolument.
Et c'est vrai que c'était des moments, c'est un moment très particulier, c'est un moment chaleureux, certes très festif, mais surtout où on parle, on discute, on raconte, chacun a sa petite idée, sa petite recette qu'il va transmettre à l'autre. C'est comme ça qu'on grandit.
Vive
c'est comme ça qu'on aime la
gras.
France. Et c'est comme ça qu'on aime le gras.
Et chers auditeurs, quand vous croiserez Yves Courdebordes, vous avez entendu, il a eu le gras d'honneur. Vous pourrez le saluer. Il n'y a pas beaucoup
c'est
de gens
qui ont
reçu un gras d'honneur. Allez, c'est l'heure d'aller au marché aujourd'hui, direction la région lyonnaise. Bon, on reste dans le coin de votre saucisson, Yves. On va à Oulin. Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 dans la région, vous a demandé ce que vous aviez dans votre panier et ce que vous alliez cuisiner avec, surtout.
Des brocolis, qui sont très beaux. Des épinards, un chou rave, des betteraves crues, des carottes, la salade frisée. J'ai tout pris, tout ce qu'il y avait sur le marché.
J'ai pris des blettes, des carottes, des pommes de terre.
Les blettes, vous allez les préparer comment?
À l'eau, simplement avec un filet d'huile d'olive.
Moi, je vous prendrai une botte de petites carottes là-bas au fond, elles sont trop bonnes.
Dites-moi un peu ce que vous avez acheté aujourd'hui alors.
Des carottes, du céleri, parce que je vais faire une poule au pot pour dimanche. Oh.
Comment vous préparez ça?
Eh ben, la poule, je la mets à l'eau froide dans une grande casserole. Et puis après, je vais la laisser bouillir. Et après, je vais mettre aussi un peu du céleri, du poireau, carottes, un navet aussi. Et puis, j'espère au moins 2 heures. Hein. C'est ma fille et mon gendre qui viennent.
Donc, ils vont avoir droit à la poule au pot.
Voilà. Henri IV, hein, c'est Henri IV qui va.
Exactement, vous avez raison, madame. Merci, ils vont se régaler, la fille et le gendre. Une belle poule au pot, comme ça, on écume, effectivement, comme le pot-au-feu avec du céleri. C'est une belle idée de mettre du céleri dans la poule au pot. Merci, Jean-Luc Boujon, et merci à vous hein, de répondre au micro Europe 1 qui se balade sur tous les marchés de France.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Vous en avez entendu parler, c'est certain. Depuis quelques jours, on assiste à une flambée des prix dans certains rayons. Les pâtes, le café ou encore le sucre, entre autres, sont concernés. Alors, on va vous expliquer pourquoi ça augmente. Et puis surtout, on va essayer de comprendre si ça va durer, cette histoire. C'est vrai que le prix des carburants, du gaz et de l'électricité grimpe depuis plusieurs semaines. Et vous l'avez sûrement remarqué, cette augmentation contamine aussi nos courses alimentaires. Donc réagissez hein, sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1, la table des bons vivants. Et puis au 39-21 également, vous pouvez réagir. Alors c'est vrai que Charlotte, pour qu'on comprenne bien, ouais, on va poser quelques chiffres qui vont planter le décor.
Oui, oui, il faut poser un peu le débat puisqu'il y a quelques faux-semblants. Alors évidemment, les pâtes, par exemple, ont augmenté de 1,77% par rapport à il y a un an. Hein. Ouais. C'est la première fois que la hausse est aussi importante. Le paquet de farine, c'est jusqu'à 3,5% de hausse. Sont concernés aussi le café, le sucre, la bière, le pain, aussi la viande et les fruits comme les pommes ou les poires qui sont pourtant de saison. Hein, 19% pour les pommes parce que la récolte de poires a été réduite de moitié. Donc ça fait doubler
oui, alors
les
voilà,
prix.
Quand il y a un
évidemment
manque de production, forcément, on s'en ressent. Ouais.
Voilà, mais alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même relativiser. On parle d'une hausse de quelques centimes réellement sur le prix. Pour un paquet de pâtes, par exemple, de 500 grammes, ça représente 6 à 7 centimes de hausse. Et donc, si on regarde l'ensemble, si on dézoome et qu'on regarde un peu l'ensemble des produits alimentaires, l'inflation, elle n'est que, entre guillemets, de 1% depuis
le
1er janvier.
Quand on a les moyens, tout va bien. Mais encore une fois, Yves, ce sont les plus modestes qui vont être les plus touchés par cette augmentation des prix.
Et oui, c'est une fois de plus, voilà, les pauvres. Quoi,
les petits qui trinquent.
Ouais, les petits qui trinquent, parce que c'est des produits, je dis de base, c'est des produits du quotidien, c'est des produits de tout le monde. Mais il y a une vraie question peut-être à se poser, c'est que c'est justement, est-ce que ces produits-là, il ne faudrait peut-être pas bloquer les prix? On a connu, Laurent, vous et moi, le prix de la baguette bloqué.
Oui, absolument.
Ça avait été débloqué dans les années 80, fin des années 80. Et c'est peut-être une anomalie, tout ça. Voilà. Il faut que tout le monde ait accès quand même au bien manger. On le prône assez ici à la table des bons vivants. Et c'est le seul moyen, c'est peut-être arriver.
Et même pas de taxes, peut-être, même pas de TVA sur certains produits
sur certains
qui seraient
produits
des produits
base,
de première
voilà,
nécessité, voilà, qui seraient des produits de base, effectivement. Alors, parmi les produits qui ont augmenté depuis quelques semaines, il y a le pain, bien entendu. Alors, on va en parler avec Dominique Henrac, qui est président de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie. Il va nous aider à comprendre cette augmentation du prix. Bonjour, Dominique.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Alors, on l'a vu, hein, la baguette augmentée, et on voit les affiches sur les boulangeries, les boulangers qui s'excusent, ils ne peuvent pas faire autrement, ils augmentent voilà, parfois de 10% le prix de la baguette.
Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que chaque boulanger est vraiment individuel au niveau de son augmentation des prix. Mmh. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui vont mettre 3 centimes, d'autres 5, parfois d'autres pas. Et on voit par exemple, j'ai vu le cas de boulanger qui ont dit bah, écoutez, la baguette, on n'y touche pas parce que c'est un produit d'appel et on augmente les autres choses. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le prix du pain, puisqu'on parle là des années 87, il a été libéré en 87 pour tout vous dire, et ça c'était un prix maximum. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est passé à l'euro, en fait, la baguette a pris 23 centimes en 20 ans. Donc c'est quand même un produit qui a, si vous voulez, qui n'a pas suivi vraiment le cours de la vie. Et on voit aujourd'hui, avec un SMIC il y a 20 ans, on achète beaucoup plus de baguettes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est vraiment un marqueur. C'est un produit parce que les boulangers ont fait attention, c'est quelque chose de sensible dans la tête des gens. Donc, et là, je vois les augmentations, les gens font très attention.
Pourquoi cette augmentation des prix ? Les matières premières, bien sûr.
Voilà, bien sûr. Alors, il y a eu le blé, il a pris entre 30 et 50% là, pratiquement dans l'année. Donc, ça, c'est par rapport à cette rentrée, ça a été une très, très grosse augmentation pour les meuniers, d'où une répercussion d'augmentation de la farine. Alors, ça, au niveau des blés, c'est aussi bien pour nos agriculteurs hein, qui vivent de leurs produits.
Oui, ils sont contents.
Mais après, ça s'est aussi jumelé avec l'augmentation de l'énergie qui a explosé. Vous savez que dans une boulangerie, on est des gros consommateurs d'énergie. Tout ce qui rentre chez nous, c'est cuit. Donc ensuite, on a eu les salaires, vous avez vu, il y a 2-2 au niveau du SMIC. Mais
augmentation du SMIC, oui.
Sur l'année, et ça, c'est le plus gros poste, la main-d'œuvre, et qui est très bien aussi, mais qui a pris 2,5% cette année, plus les emballages, etc. Tous les postes ont flambé. Donc effectivement, là, sachant que les boulangeries ne sont pas toutes revenues à leur chiffre d'affaires 2019, à savoir aussi qu'il y en a l'an dernier, pour la plupart, et ça, je peux l'engager, en fait, l'an dernier, avec le Covid, n'ont pas touché les prix, c'est vrai que bah, là, ils sont, beaucoup se sentent dans l'obligation d'augmenter les prix. Mais ça reste encore quelques centimes dans le prix dans le panier de la ménagère.
Est-ce que vous pensez pas aussi, je vais parler de l'emballage, mais l'emballage en général, est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, les boulangeries sont totalement transformées, c'est pratiquement des bijouteries, voilà, avec des pains spéciaux dans tous les sens, certes de très belle qualité, mais est-ce que tout ça fait qu'à un moment donné, pour avoir la rentabilité, mais il faut augmenter le pain ? Est-ce qu'on ne peut pas revenir à des choses peut-être beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples, moins d'emballage pour que le contenu reste accessible ?
Alors, bah vous savez, vous parlez très bien, parce que là, on est en train de mettre en place une action au niveau national, parce qu'on a 12 millions de clients chaque jour dans les boulangeries artisanales, et le problème, c'est que le client est très demandeur d'avoir son sac à baguettes. Vous savez, quelqu'un qui prend une baguette de chez lui pour faire 100 mètres, on lui met un papier mousseline, mais quelqu'un qui a 1h30 de métro, il faut qu'on lui emballe sa baguette.
Bien sûr,
hein. Donc là, ce qu'on est en train de mettre, c'est d'essayer de supprimer, d'ailleurs, vis-à-vis de la REP, hein, la loi AGEC qui vient, il faut qu'on ait plus d'emballage et qu'on les traite, donc on va s'arranger pour donner des emballages, comme ça a été fait des sacs plastiques il y a quelques temps. Donc il faut qu'on supprime ça, parce que c'est pratiquement 12 millions de sacs papier.
Oui, sacs en fécule de maïs et de pommes de terre, c'est bien, on en voit de temps en temps, c'est pas mal, ça c'est mieux que le plastique, il faut qu'on en sorte du plastoc. Dominique Henrac, est-ce que vous pensez que ça va continuer, cette augmentation des prix dans la boulangerie et dans la baguette et ses copains autour ?
Alors, vous savez, déjà, la première chose, les meuniers, le blé est volatile. Bon, là, visiblement, pour l'instant, c'est pas encore prévu que ça baisse. D'ailleurs, le beurre s'y met aussi. Ouais. Mais on sait qu'il y a des choses qui ne baisseront pas, les salaires. Bon, évidemment, eux, heureusement, ça baissera pas. L'énergie, ben, vous avez vu, tout ce qui est énergie fossile, ils ne veulent pas baisser les prix, donner des primes à certaines personnes pour éviter de l'utiliser. Donc là, c'est pareil, ce sont des postes qui vont pas baisser. Maintenant, le meunier temporise un peu l'augmentation du blé et le boulanger temporise toutes ces augmentations. C'est-à-dire que voilà, il ne met pas exactement toutes les augmentations qu'il a eues, sinon il mettrait 20-30 centimes et là on se ferait vilipender.
Eh ben merci d'avoir répondu à nos questions, Dominique Henrac, et puis tous chez nos boulangers aussi pour les soutenir. Effectivement, il y a peut-être, comme vous le disiez, des aménagements à faire autour des emballages et de tout ce qui est périphérique et qui fait augmenter le prix de certaines denrées.
C'est vrai que la problématique des denrées qui augmentent le blé, ça c'est très délicat, on n'y peut rien. Peut-être que simplement, Laurent aussi, c'est l'intelligence de ces courses. Arrêtons d'acheter des choses qui sont pratiquement inutiles à notre quotidien.
Bien sûr.
Et concentrons-nous sur des produits indispensables de qualité.
Et quand on fait ces courses en grande surface, hein, je le redis, je ne sais pas pour contrer les grandes surfaces parce qu'elles vont y mettre dealers, je vais en parler, mais on revient avec 40% de produits dont on n'avait pas besoin quand
la
on fait
liste, loin. La liste des courses et on n'en déroge pas.
Mais à propos des grandes surfaces, il faut quand même le dire, les distributeurs vont faire des efforts. Michel-Édouard Leclerc l'a dit cette semaine sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, c'était dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Ils prennent leurs responsabilités, les distributeurs.
Oui, alors ça, va falloir suivre ça de près parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours. C'est vrai que c'est les marges.
Sur leur marge, ils ont dit.
Oui, j'attends de voir, j'espère que c'est vrai, mais
on
franchement, on peut le suivre de près.
Mais
parce que c'est pas la première fois.
On va surveiller, vous avez raison, Charlotte.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Où que vous habitiez, vous l'avez remarqué, l'automne est bien installé, une belle saison avec ses courges, ses châtaignes, ses champignons, ses choux. Une saison inspirante en cuisine, elle vous inspire, tiens Yves Candebord, l'automne.
L'automne m'inspire parce que c'est vrai que on sort d'une période d'été et tous ces produits qui arrivent, qui sont des produits qui ont beaucoup de goût et qui demandent aussi beaucoup de cuisine. Alors les produits d'automne, c'est des produits qu'on est obligé de cuisiner, qu'on est obligé de mettre dans la casserole, qu'on est obligé de gratter, de faire suer, de déglacer. Donc nous, les cuisiniers, on aime ça. Ce n'est pas tout simplement, je dirais, un légume vert qu'on a tendance à jeter dans une assiette.
Et vous, là, Charlotte Dandran, Charlotte qui teste plein de tables pour le journal du dimanche et pour la table des bons vivants, vous aimez l'automne en cuisine ?
Oui, j'aime beaucoup l'automne et ce que je trouve sympa en ce moment est dingue parce qu'il y a quelques années, vous le disiez tout à l'heure Yves, il y a quelques années, quand on faisait du pâté en croûte, on était un peu has-been, on était un petit peu des vieux de la vieille. Et puis là, c'est hyper... les feuilletés, il y en a partout, des feuilletés charcutiers, il y a des frillons, il y a des tourtes, il y a du gibier partout, c'est absolument... Moi j'adore ça, donc je suis hyper contente.
C'est réconfortant, ouais. Ça croque.
On pourrait manger ça à Noël, à la place de la
C'est un peu gras, il y a un peu de beurre, mais qu'est-ce que c'est bon. Oui,
alors, pour l'occasion, nous avons invité la chef Amandine Chéniaud et Vanessa Zocchetti, la rédactrice en chef adjointe du Madame Figaro, pour cuisiner l'automne. Bonjour mesdames, bonjour Vanessa.
Bonjour.
Et bonjour Amandine.
Bonjour.
Merci d'être là. Vanessa, dans votre dernière série cuisine du Madame Figaro en kiosque depuis le 8 novembre, vous avez consacré un dossier à la cuisine nature d'Amandine Chéniaud. C'est d'ailleurs le titre du livre d'Amandine. Il vous a tapé dans l'œil, son livre, hein ?
Il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je trouve que c'est d'abord un très joli livre avec les photos d'Amandine en plus de ses recettes. Elle a cuisiné tout elle-même et elle a tout immortalisé sur place. Et c'est surtout un livre magnifique parce que c'est un livre à portée de main, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on peut s'approprier sa cuisine, elle est simple, c'est la cuisine d'une chef qui cuisine chez elle, en l'occurrence pas tout à fait puisqu'elle était dans le Perche un peu loin de chez elle, avec des instruments qu'on a sous la main et surtout avec des produits qu'on a à portée de main, c'est-à-dire qu'elle a cuisiné avec ce qu'elle avait autour d'elle et ça c'est magique parce qu'on est en plein dans la cuisine de saison en ce moment d'automne.
Ça vous est venu pendant le confinement Amandine, hein, cette inspiration?
Ouais, exactement, c'était l'an dernier, il y a tout pile un an, quand on a dû refermer une nouvelle fois les restaurants. J'ai pris mes petits couteaux, je suis partie à la campagne et puis c'est vrai que j'en ai profité pour vraiment cuisiner pour moi. C'est un truc que je fais quasiment jamais en fait quand je suis à Paris, quand on est occupé par les restaurants.
Bah oui, vous avez plusieurs restaurants. Pouliche, le Café de Luz qui vient d'ouvrir, qui est une très belle table sur la cuisine traditionnelle française dans le Montmartre dont on parlait tout à l'heure, juste sur la place du théâtre de l'atelier. Quel rapport vous avez à la terre, Amandine Chéniaud, à l'automne?
Bah, moi je suis un peu comme Yves, hein. c'est une saison que j'adore. Déjà c'est une saison de retrouvailles souvent puisque l'été tout le monde part un peu à droite à gauche, puis l'automne c'est les moments de retrouver les amis, de refaire des jolis tablés. Et puis j'aime les courges qu'on met au four, qu'on farcit, j'aime les champignons, les gibiers. C'est vraiment un moment pour faire des sauces, pour cuire, rôtir.
C'est ça, alors, voilà quelques exemples de recettes qu'on retrouvera dans votre livre et puis dans ce hors-série du Madame Figaro. Curry de courge, crème de champignons et croissants, des oignons farcis et une tarte amandine, forcément. mais pas aux poires, mais au coin.
Bah oui, j'avais envie de faire un petit clin d'œil avec ce fruit qui est un peu oublié, qu'on connaît tous en gelée, mais qu'on a du mal à cuisiner parfois. Et là, je trouve que c'était une petite façon de twister la tarte.
Mais cette tarte salée ou sucrée ?
Non, sucrée.
Sucrée.
Ouais.
Une recette d'automne qui vous a tapé dans l'œil, tiens Yves.
Ah ben, le coin, moi j'adore le coin, je le poche dans du jus d'orange avec un peu de badiane, mais je ne l'épluche pas. Je le laisse cuire vraiment très longtemps, je le laisse refroidir là-dedans. Après, je coupe en tranches, j'enlève bien sûr le centre, là où il y a les pépins, et après, je me le poêle. Et je le poêle, Laurent, avec un produit que tout le monde doit consommer cette année, c'est le marcassin.
Ah, le petit du sanglier ?
Le petit du sanglier. Déjà, on va rendre service à l'agriculture française, parce qu'il y en a beaucoup, et ils font beaucoup de dégâts, donc il faut les manger.
Ça, c'est vrai.
Et surtout, c'est un prix, Laurent, hyper accessible. La biche, c'est pas touchable. Le chevreuil n'est pas touchable. Le perdreau n'est pas touchable. La palombe reste raisonnable. Le marcassin, c'est vraiment le gibier rapport qualité-prix. Et avec les coins...
Et plus tendre que le sanglier, qui a une fermeté chez le sanglier, hein, faut le dire.
C'est très tendre et surtout, ça a un goût très fin. C'est pas puissant.
Charlotte. Ce qui est très touchable, c'est la première recette sur laquelle je suis tombée dans le livre d'Amandine Chéniaud, c'est le soufflé au fromage. Sans moule, avec du jus de poulet rôti. J'ai la photo devant le nez dans une casserole en cuivre, là, c'est pas possible. C'est vraiment très, très recommandé pendant la saison.
Vanessa Zocchetti, dans ce hors-série cuisine, cuisine du Madame Figaro. Vous avez appelé votre dossier la cuisine des bons moments. C'est quoi les bons moments alors pour vous?
Alors, le mot bon, évidemment, ça veut tout dire. Ça veut dire du goût, ça veut dire des saveurs, des produits de qualité. Parce que ça, c'est très important. Et locaux, locaux de saison, pour moi, c'est essentiel. Et les bons moments, c'est la cuisine du partage. Et c'est aussi ce que nous raconte Amandine. Même si elle était confinée dans une maison, elle a cuisiné comme si elle cuisinait pour ses amis. Et ça, c'est la bonne nourriture, les bons plats, c'est aussi la convivialité. Et le mot bon, je veux revenir dessus parce que je crois qu'aujourd'hui, la cuisine, c'est un acte engagé, c'est-à-dire ne pas aller acheter... Je pense que vous en avez parlé précédemment, ne pas aller acheter des choses lointaines, qui ne sont pas de saison, qui sont mal produites. Et le bon, c'est aussi faire du bien à la planète, c'est aussi manger ce qui est près de chez nous, apprendre à cuisiner les produits que parfois on n'a pas envie, où on se dit, oh là là, cet hiver, on a encore des choux, mais il y a plein de genres de choux, il suffit de regarder sur les étals des producteurs.
Consommer local, on a un pouvoir avec notre carte
local.
Bleue. Manger, c'est voter, hein, comme le dit une très bonne émission sur une chaîne de la TNT.
Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah bah ouais. Nous voilà à table avec Amandine Chéniaud, sa papote, hein, la chef de Pouliche et du Café de Luce à Paris.
Tourte.
Et Vanessa Zocchetti, rédactrice en chef du Madame Figaro. On cuisine l'automne ce midi. Vous parlez tourte, vous dites ?
Oui, on parlait tourte.
On parlait tourte parce que tout à l'heure a été évoqué le pâté en croûte, les pitiviers. Et il se trouve que dans le Madame Figaro, le hors-série cuisine, on a fait tout un sujet avec Johan Lastre sur le retour de tous ces plats en croûte,
charcutier
en pâte.
Dont on parlait tout à l'heure avec l'amicale Dugras.
Exactement. Et il nous livre des recettes somptueuses. On est même allé en chercher un peu au-delà de nos frontières pour apporter un peu d'exotisme, tout ce qui est coulibiac, etc. Et il en parle très bien parce qu'il explique que la tourte, c'est comme un paquet cadeau qu'on va fendre avec le couteau. Et à l'intérieur, c'est la surprise. Et je trouve ça hyper poétique.
Et les pailles, comme disent nos cousins anglais aussi.
Oui,
hein,
voilà, il y a les pailles aussi.
Il
enfin,
n'y a qu'une couche avec la paille. Hein. Ouais. La tourte, il y a de la pâte feuilletée en dessous et au-dessus. Et la différence avec la paille, c'est qu'on met que de la pâte par-dessus. Hein. C'est bien ça, hein,
ouais,
vous me confirmez, Amandine Chéniaud. Amandine, vous parliez du confinement qui a ravivé chez vous la cuisine du quotidien. Vous aussi, Yves, ça a ravivé la cuisine du quotidien. On en a beaucoup parlé ici. Hein.
Alors moi, je cuisine quand même beaucoup, beaucoup à la maison. J'adore ça. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'ai eu une confirmation. C'est que j'aimais cuisiner, quoi. Parce que, non, mais ouf. C'est vrai qu'on pourrait arriver à une situation des professionnels, on cuisine tellement d'avoir une forme d'écœurement, mais non, on aime ça, c'est viscéral, quoi. Et peut-être que le confinement, Laurent, vous savez pourquoi ça a été révélateur pour beaucoup de cuisiniers, je ne sais pas si Amandine dira ce qu'elle en pense, c'est qu'on s'est mis à cuisiner sans esthétisme, sans penser à dresser une assiette, et je suis persuadé qu'on a mieux cuisiné et qu'il y avait plus de goût.
Bah, je pense qu'il y a aussi beaucoup de chefs qui se sont mis à goûter ce qu'ils faisaient, en fait. Parce que c'est vrai que dans les restaurants, souvent, tu vas dans des endroits, tu te dis que les mecs, en fait, ils goûtent pas ce qu'ils font. Hein.
C'est important de goûter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, c'est terrible à dire, mais parfois se perdre dans l'habitude de certains chefs, et il faut tout le temps goûter. C'est le cas avec votre cuisine nature, votre beau livre paru chez Solar, Amandine Chéniaud. Vous parlez d'émotion en préambule, hein. C'est un des premiers mots qui vient quand on lit votre livre. La cuisine, c'est avant tout une émotion.
Ouais, moi, c'est beaucoup de souvenirs de famille, liés notamment à mes grands-mères et à ma maman, parce que c'est là où j'ai mes premières émotions, mes premières tartes aux pommes, ma première mayonnaise. C'est des choses qui sont hyper importantes pour moi, effectivement. Et puis, je pense que la vraie bonne cuisine, c'est une cuisine qu'on fait parce qu'on a envie de donner quelque chose, et donc forcément, il y a de l'émotion qui passe.
Eh ben, on va passer aux travaux pratiques parce que vous n'êtes pas venus les mains vides. Dans de belles assiettes, vous nous avez dressé des caillettes, une recette qu'on retrouve dans votre livre et puis dans le hors-série du Madame Figaro. Et les caillettes font leur entrée au studio Coluche actuellement. Ce samedi midi, on applaudit les caillettes. C'est amusant parce qu'on dirait un chou farci là de loin.
Ouais. Bah ouais, mais alors ma grand-mère en fait elle faisait ça. Elle prenait soit de la blette, la partie verte là, qu'elle blanchissait, puis après elle sa façon de faire les caillettes, elle mettait un peu tout ce qu'il y avait dans le frigo quoi. Donc c'était un peu l'occasion de recycler. Elle mettait un peu de chair à saucisse et puis après s'il y avait une race de poulet rôti, elle le hachait, elle le mettait dedans. Elle mettait un peu tout en fonction de ce qu'elle avait à portée de main. Mais en revanche, un truc qu'elle mettait tout le temps, c'est elle faisait tout le temps du pain rassis trempé dans le lait qu'elle mettait dedans. Et ça donne une texture qui est
du
absolument...
Voilà.
Et c'est incomparable.
C'est ce qui fait des caillettes pas sèches.
Je me permets de rebondir sur Amandine. Cette recette, on la lui a piquée. On la livre dans le hors-série. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que la caillette, chez moi, dans la Drôme, il y a de la crépinette. Et la crépinette, c'est hyper difficile. Il faut aller chez le boucher, il faut qu'il accepte d'en vendre, etc. Et là, cette version avec la feuille de chou, ça rend le plat
exactement
hyper abordable.
Oui, et puis c'est
mais
végétal.
Ça garde le jus aussi.
C'est un mix entre la caillette et le chou farci. On a à l'époque des hybrides, des voitures hybrides. C'est le chou farci hybride. Là, on en plein dedans un petit peu quand même. C'est bon.
Il y a du jus.
Il y a quelque chose de très, très doux.
Oui, c'est vrai.
Il y a des châtaignes.
Un peu sucré.
Il y a un peu de persil. J'ai mis un petit peu de foie gras.
Combien de temps de cuisson et comment vous la cuisez? Tiens, pour nos auditeurs qui voudront la refaire ce week-end.
Alors, j'ai fait mes petites, j'ai fait mes petites boulettes avec la feuille de chou autour. Ensuite, je les mets toutes bien serrées dans un plat qui passe au four. Une petite noix de beurre sur chaque petit chou, petite boule. Un demi-verre d'eau et vous mettez au four tout doucement. Là, ça a cuit à 150 degrés environ 20 minutes.
Les feuilles de chou, tu les blanchis
avant. Oui, je les avais blanchies avant.
Les feuilles de chou sont blanchies et après, t'enveloppes la face avec les feuilles de chou blanchies.
Tu fais ça dans la main.
Et alors, est-ce que vous avez réussi à l'avoir le goût de la recette de votre grand-mère?
C'est quand même une émotion.
Voilà, c'est jamais pareil.
c'est quand même une
grosse pression.
Ouais, c'est jamais pareil, mais.
Mais vous en êtes rapproché.
Ouais, en tout cas, moi, ça m'évoque beaucoup de souvenirs.
Ouais, c'est très bon. Après, moi, je suis un peu d'accord avec Laurent, c'est quand même plus proche peut-être du chou farci que de la caillette.
Ah bah c'est la version de Mémé Odette.
Parce que votre autre grand-mère qui s'appelle Luce, vous lui avez dédié votre café de Luce à Paris, à Montmartre.
Exactement, on l'appelait Mémé Lucette. Et c'était mes deux grand-mères. Alors elles avaient toutes les deux des univers très différents. Il y en avait une qui était en Pays de la Loire et l'autre qui était bourguignonne. Mais voilà, c'était des jolies histoires de cuisine, tout ça.
Alors, je sais qu'il y a de belles histoires de cuisine au Café de Luce à Montmartre, notamment de belles cuisses de grenouilles que vous êtes déjà venu cuisiner à la table du dimanche.
Ouais, c'est vrai.
On a eu une belle assiette de compétition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cuisine traditionnelle comme ça que vous souhaitez préserver, Amandine Chéniaud?
Là, en ce moment, on fait de la tête de veau, on a de la blanquette. La blanquette pour moi c'est... Alors là pour le coup c'était ma maman la blanquette.
Comment est votre blanquette?
Ma blanquette est bonne. C'est vrai. Donc on s'amuse avec des choses comme ça. On fait une raie qu'on met au four avec quelques capres et quelques quartiers de citron. Enfin, c'est vraiment la cuisine ménagère en fait entre guillemets qu'on fait au Café de Luce. Donc il n'y a pas vraiment de règles. On s'inspire assez librement.
Une cuisine nature comme votre livre paru chez Solar Édition. Merci Amandine Chéniaud d'être venue nous régaler.
Merci beaucoup.
Et bravo pour ces belles caillettes de compétition. Merci Vanessa Zocchetti.
Merci. Et retrouvez les caillettes dans le hors-série.
Absolument, vous m'enlevez le mot de la bouche. Dans le hors-série, Madame Figaro est spéciale fête également avec des recettes pour passer un réveillon gourmand et joyeux. Et puis il y a des belles recettes de roulés parce qu'on va tous rouler à Noël. On aime bien faire des bûches roulées. Et bien voilà, ce sera dans Madame Figaro. Et on peut rouler sous la table. Parlez pour vous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci pour votre fidélité, en tout cas tous les samedis de 11h à 12h30 à notre table des bons vivants. Eh bien ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Il fait partie de ces humoristes, vous savez, qui ont un univers. On l'a connu Jonathan Lambert, il se nomme aujourd'hui R. Jonathan Lambert. R comme Rodolphe, le nom de son nouveau spectacle à la Scala à Paris, drôle et très personnel qu'il joue depuis ce jeudi. Il a son rond de serviette à cette table, il a même attaqué la caillette. Bonjour Jonathan Lambert.
Bonjour.
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 R d'ailleurs, quand on le dit comme ça, R Jonathan Lambert, en allemand ça veut dire Monsieur Jonathan Lambert.
Guten Tag, Guten Tag Jonathan Lambert. Wie geht's?
Alors c'est seulement que je connais, c'est Danke et R. Je connais rien d'autre.
Comment cette lettre R est soudainement apparue sur votre identité, alors ce R comme Rodolphe?
Alors ouais, elle est soudainement apparue, mais elle a toujours été là, tapis dans l'ombre, puisque mon vrai prénom c'est Rodolphe Jonathan, puisque mon père voulait m'appeler Rodolphe, ma mère Jonathan, et comme ils n'ont jamais réussi à tomber d'accord, ils ont décidé de garder les deux, et c'est devenu un prénom composé qui est un peu absurde, enfin qui n'existe pas. Enfin, après tout, pourquoi pas?
Mais ça vous va bien?
Moi, j'avais du mal à l'assumer. Rodolphe, vous savez, Jonathan, je trouvais ça cool. Mais forcément, Rodolphe, à part Rudolf Lind, d'ailleurs, je ne connaissais pas d'autres Rodolphe. Sentait un peu la naphtaline. Enfin, ça faisait très, très vieux. Et quand on a 12 ans, on n'a pas envie de porter ce genre. Enfin bon, de toute façon, ma mère l'avait déjà décidé avant. Elle a dit non, ça sera Jonathan. D'autant que mon père s'appelait Rodolphe. Donc, c'était aussi son prénom.
C'est une continuité.
Voilà. Et donc, comme mon père est parti, c'était justement une façon de me dire il est parti mais il est toujours là, je vais me réapproprier ce prénom qu'il m'avait donné et voilà, comme la formule dit, le roi est mort, vive le roi.
Exactement, et il est là bien présent au-dessus de vous sur scène parce qu'il y a un joli néon écrit Rodolphe. Alors, sur la scène de la Scala.
C'est assez magique parce que vous savez, c'est quand même un souhait qu'on a tous, c'est quand les gens que vous aimez vous quittent, vous avez envie de les rendre toujours, enfin, immortels et toujours là. Et par le biais de ce spectacle et de ce métier qui est formidable, puisqu'on peut un peu créer ce qu'on veut, je porte sa robe de chambre, je porte ses cravates, ses chaussettes, et de voir sur l'affiche son prénom, ce néon sur scène et même sa robe de chambre, je pense que ça leur est fait marrer. Quoi.
Et il est là, puis alors vous en parlez, alors on connaît votre humour qui est... ce qui fait du bien, c'est pas politiquement correct. Il y a un petit peu d'humour noir, c'est un peu cruel parfois, c'est un peu
corrosif. Ouais, ouais, frère.
Vous vous moquez des obsèques de votre papa. Hein,
bah peut, oui, voilà. Mais vous savez, je pense que pour tenir des propos parfois aussi trash, noir, c'est parce qu'on aime les gens. Et on sait qu'à aucun moment, il n'y a pas d'équivoque pour se dire je le fais en me disant qu'il va, même si mon père n'est plus là du reste, puisque je parle aussi de ma mère, de ma femme, de ma sœur, et je tape aussi dessus. Mais je tape aussi beaucoup sur moi. Et je pense que le principe, avant tout, c'est l'autodérision pour s'autoriser ce genre de choses.
Vous ne vous moquez pas de votre taille, hein, parce que vous la donnez en arrivant sur scène 1m75. Hein, il n'y a pas de souci.
Non,
sur ça.
Non, je dis même 1m85.
1m85,
ce qui fait rire les gens. Je ne vois pas pourquoi.
Alors, on le sait, vous aimez manger. Hein, et votre papa, justement, vous a transmis le goût des bonnes choses, le goût de la bonne chair.
Ah oui, c'était sa passion dans la vie. Il est vraiment. Alors, il est parti de rien. Mon père n'avait plus ses parents à 14 ans. Donc, il s'est fait tout seul. Et dès lors qu'il a gagné un peu d'argent, c'est les deux trucs où il dépensait sans compter, c'était la cuisine, la bouffe, les restaurants. Je pense que toute sa vie, il a déjeuné et dîné au restaurant. Il ne savait pas cuisiner, il n'avait pas envie de cuisiner. Et les fringues, les costumes, c'était... Donc il m'a transmis vraiment, en tous les cas, le goût et de la bonne chair.
Du bon et du beau, pardon.
Ouais, il vous a emmené tôt au restaurant, alors, du coup ?
Oui, tôt. Il était ami avec des grands chefs. Je me souviens de Alain Cendrins, qui était un de ses amis.
Lucas Carton.
Voilà, il y avait...
Sans doute l'Archestrat.
Oui,
départ.
Encore
une fois. Oui, il l'a connu vraiment il y a très, très loin. Il a connu un type qui était formidable, qui s'appelait José Lampreya, je crois.
La Maison Blanche.
Du Sud-Ouest. Hein.
Ouais,
Chiberta, même, au départ.
Au départ, Chiberta, après Maison Blanche, qui était dans le 15e arrondissement, pratiquement à la porte de Versailles. Un endroit exceptionnel.
Et je rends hommage aussi à Victor Lampreya, qui a beaucoup travaillé avec moi en cuisine à la télévision, qui nous a quittés cet été, qui était le frère de José Lampreya.
Absolument, oui, il y avait son frère qui était adorable et qui avait ouvert un restaurant aussi dans le 15e.
Absolument, qui avait un restaurant dans le 6e arrondissement aussi, oui.
Et on va rendre hommage, puisqu'on est parti là-dessus, à René Durand.
Ouais.
René Durand, qui était l'associé de José à la Maison Blanche, donc dans le 15e et après Avenue Montaigne, qui est parti malheureusement, qui avait un certain âge, qui est parti il y a 3 semaines de ça. René Durand. Bah merde.
Et Dominique Damias, Olympe, je me souviens, je crois que c'était dans le 14e son restaurant.
15e.
Dans le 15e peut-être, ouais. J'étais petit. Mais voilà, ouais.
Vous avez été à bonne école.
Ah ouais, non, c'était. Et ils les connaissaient tous. Et voilà, et donc j'étais à bonne école.
Quel est votre goût de la semaine, R. Jonathan Lambert ?
Alors,
c'est vrai qu'on dirait qu'on parle en allemand.
Mon goût de la semaine, vous savez, quand on
Fräulein,
est en...
Fräulein Jonathan Lambert, oh, s'il vous plaît.
j'étais dans un goût restaurant. Non, quand j'étais à Rouen, puisque j'ai joué à Rouen, il y a le Cancan. J'ai très bien dîné là-bas, donc voilà, je les embrasse. Et pourtant, j'ai payé, hein, donc je fais vraiment en toute honnêteté. Chez Cancan à Rouen, et puis oui, mon général aussi, c'est un endroit que j'adore.
Je suis toujours bien là. Dans le 7e arrondissement.
C'est la cuisine comme j'aime, simple, avec des vrais plats qu'on connaît, mais avec juste ce qu'il faut. On revisite un peu le truc avec une petite touche personnelle pour le rendre un peu plus moderne, même si ça veut rien dire, mais en tous les cas. Plus personnel.
Alors, c'est la saison du Beaujolais Nouveau, ça ne vous a pas échappé. Yves Candebord, ici présent, a ouvert une bouteille de Beaujolais Nouveau. Un vin à boire tout de suite, hein, c'est pas un vin de garde. Hein, et ça tombe bien parce que Jonathan aime plutôt les vins qu'on boit comme ça assez rapidement.
Moi, j'aime pas tellement parler du vin. Comme on dit, voilà, ça se boit, ça, on n'en parle pas. Quoi.
Il va en parler quand même.
Parce que le Beaujolais Nouveau, ça vaut le coup d'en parler. En plus, il est arrivé jeudi. En même temps que votre spectacle.
C'est vrai.
Voilà. C'est quand même un signe. Et c'est un événement qui est mondial. Voilà. Ça a été créé dans les années 50. Ils ont créé ce vin nouveau. C'est la façon de boire un vin très jeune. Alors qu'il vient de mettre en bouteille, et surtout qu'il y a un vin qui est sur le fruit uniquement.
Alors ça fait 70 ans qu'on en boit, hein. Pas toujours pour le meilleur. On a parlé de ces fameux additifs qui ont donné des goûts de banane. On en est sorti de ça quand même.
Ouais, c'était fou ça, à chaque fois, là, on sortait la banane et le fruit rouge.
Mais c'est vrai qu'on avait...
Mais c'était dû à quoi ça
C'est dû que c'est fait par des faiseurs qui pensent qu'au business et qui ne pensent pas du tout à la qualité. C'est que du commercial. On était arrivé à faire la fête du vin façon Halloween. Totalement ridicule. Mais quand même, il y a depuis 10 ans, il faut le dire, il y a 10 ans...
Il y a une belle génération.
Ouais, il y a une belle génération déjà de papas qui ont débroussaillé tout ça, qui ont nettoyé tout ça. Et maintenant, on a des jeunes. On a des gamins qui ont entre 20 et 30 ans, les Julien Métra, les Kéké Descombes, Mathieu Camille Lapierre, Alex Foyard, qui sont réappropriés cette tradition, mais de façon qualitative. Ils traitent ce vin comme ils traitent leur grand cru.
Des enfants de vignerons pour la plupart, et on a celui de Kéké Descombes, justement, un beau gelé nouveau 2021.
Non, Kéké Descombes, fils de Georges Descombes, dit le Noun.
Son vrai prénom, Kéké.
Kéké, c'est son vrai prénom, c'est le prénom qu'on lui... Dans le Beaujolais, il faut savoir que tous les vignerons ont un surnom.
Voilà. Ah, voilà.
Alors, son vrai prénom, c'est Kéké.
Kéké.
Son papa, c'est le Noun. Chacun a son petit surnom. Et donc, on a un vin qui, en plus, cette année, il faut le savoir, on a malheureusement des intempéries qui ont été catastrophiques pour l'ensemble du vignoble français. Sauf que, ça a permis d'avoir des degrés alcooliques très bas. Donc, on retrouve un Beaujolais nouveau qui
est
à 12 degrés.
On est vraiment sur
12,
le fruit.
Qui est sur le fruit, qui est léger.
Bien.
On retrouve, je dirais, l'âme, l'authenticité du gamay. Et c'est franc, c'est droit, ça se voit très facilement.
Je vous le confirme. Voilà. Ouais. À boire avec modération, bien sûr.
Toujours.
Mais c'est vrai que ces vins-là sont très digestes, du coup, très portés sur le fruit. Verdict, Jonathan ?
Moi, j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle les vins de soif. Quoi.
C'est des vins de bons moments.
C'est ça.
Voilà, de bons et beaux moments avec des gens qu'on aime.
Amis auditeurs, réagissez sur les réseaux sociaux et au 3921. Est-ce que vous avez goûté le Beaujolais nouveau ? Comment vous le trouvez ? À votre goût ? Pas à votre goût ? Réagissez sur les réseaux sociaux.
Je pense même, je trouve qu'il a un petit, il se rapproche un petit peu des vins pas nature, mais il a quelque chose tellement sur le fruit et simple.
C'est vrai.
Et c'est aussi, je pense, une bonne école pour ceux qui n'aiment pas le vin. Pour commencer, le vin, les morgons, les trucs comme ça, ces vins
c'est une approche de vin qui est franche, qui est droite et qui est simple. Mais ça fait partie des vins nature. Il n'y a aucun entrant chimique, ni dans la culture de la vigne, ni après dans la vinification. Mais c'est un vin nature qui est stable. Ce n'est pas un vin nature qui a des défauts.
Des pommes de terre, excellentes.
Des carottes, des oignons.
Des soupes aux légumes, ouais.
Comment est votre blanquette ?
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Elle est bonne.
Laurent Mariotte.
Elle est bonne comme la caillette d'Amandine Chéniaud que déguste Jonathan Lambert à notre table aujourd'hui. Et ça fait plaisir de la voir, Jonathan.
Je ne la déguste pas, je l'avale.
Il l'avale et il attaque notre beau Beaujolais nouveau de Kéké Descombes qui est très sympathique. Ça coûte combien ça
Alors, pour le particulier, il faut compter aujourd'hui entre 11 et 13 euros. C'est le grand maximum.
Pour avoir de la qualité aussi.
Pour avoir de la qualité, voilà.
Ça vous plaît, Jonathan ?
Pour l'instant, je suis comblé, moi.
Voilà. Ça donne des forces pour votre spectacle, Rodolphe à la Scala à Paris, boulevard de Strasbourg.
Ah, mais j'ai pas besoin d'avoir un spectacle pour boire du vin.
Le jeudi, le vendredi et le samedi à 19h30.
Eh oui, alors vous savez, j'ai vieilli, donc je suis très heureux de cet horaire parce que maintenant 19h30. En plus, c'est l'hiver, donc il fait nuit tôt.
Mais oui.
Les gens sortent du boulot, ils peuvent aller directement voir le théâtre et derrière, on a encore le temps d'aller dîner. Oui. Ou même d'aller
c'est
se coucher.
Bien, vous pensez au restaurateur.
C'est
hein.
Bien. Toujours. Très, très bien.
Non, mais
toujours.
C'est le bon combo, hein, vraiment.
Mais je vous assure que quand on joue sur scène, mais c'est vrai, quand on joue sur scène, c'est hyper important de savoir où on va dîner après. C'est une sorte de... Non, mais c'est un peu la carotte, quoi.
Et on est d'accord, c'est pas bien de manger trop proche de l'heure du coucher, hein.
Ah non, et ni trop, trop proche de l'heure de jouer.
Voilà,
d'ailleurs, je reviens à la banane, moi c'est mon truc. Petite parenthèse, je mange toujours une banane avant de monter, une demi-heure avant de monter sur scène. C'est le seul truc que je peux...
De l'amidon, des sucres complexes.
Un sucre lent.
Vous avez déjà repéré où vous allez aller manger après autour de la Scala là, après
Alors oui, je vais vous dire, en fait, il y a un restaurant dans la Scala qui est très bon. Et c'est assez génial de ne pas avoir besoin de sortir du théâtre. Ils ont fait un restaurant qui est formidable avec une vraie cuisine. Il y a juste 4 entrées, 4 plats. Bon, moi, j'aime bien ce genre de carte réduite.
C'est formidable. En général, c'est bon signe.
Exactement.
On peut grignoter avant de venir rigoler et voir Jonathan Lambert parce que le spectacle est drôle. Rodolphe à la Scala. Jonathan, on vous a découvert il y a bientôt 30 ans dans l'émission C'est tout cof de notre regretté Jean-Pierre. Vous jouiez le rôle du Candide auprès de Jean-Pierre. Vous lui avez écrit un très bel hommage quand il est parti. Quel souvenir vous gardez de Jean-Pierre? Parce que je sais qu'il vous a transmis des choses.
Ah bah c'était une expérience formidable. D'abord j'avais 19-20 ans, donc c'était ma première expérience professionnelle. Et puis ça s'est fait de manière tellement... oui, c'était au-delà du hasard. C'est la première fois de ma vie que je faisais un casting. Et moi j'y allais pour, non pas pour avoir décroché le poste, le rôle, le job, mais simplement pour passer un casting. Et à la fin de la journée, après plusieurs présélections, on me retient, on me dit « Bon ben voilà, la chaîne vous a choisi, la prod, Jean-Pierre, c'est vous, vous serez donc le co-animateur de l'émission. » Moi je leur dis « D'accord, on m'explique ça, on va tourner tous les jours, on va partir sur les marchés le week-end. » Je leur dis « Mais moi je peux pas, je suis étudiant, je... » Alors pourquoi vous êtes venu ? Bah, en fait, pour passer un casting. C'était pas pour, je pensais pas. Puis ensuite, on m'a annoncé que c'était payé. Puis on m'a dit combien ? J'ai dit, bah, écoutez, je vais arrêter les études. Et voilà. Et ça a été évidemment 6 mois. Parce que ça n'a pas duré évidemment autant de temps qu'on pourrait l'imaginer. Parce que c'est encore resté.
Mais
très
elle a marqué les esprits, effectivement.
Absolument.
Il y avait beaucoup de prétendants à ce casting.
Dont un certain Laurent Manotte.
Et voilà, on était tous les deux en finale. Et c'est Jonathan qui a gagné. Exactement. Que... Voilà.
Et non, bah, évidemment, 6 mois formidables. Parce que c'était un personnage hors du commun.
Il vous a présenté Jean Carmet.
Jean Carmet, Jean-Claude Carrière, puis des déjeuners, des dîners, des caves, des très très beaux souvenirs. Ouais.
Et Jean-Pierre Coff a été l'un des premiers à démontrer qu'on pouvait bien manger pour pas cher. C'est quelque chose qu'il vous a transmis aussi, ça, d'être attentif aux produits.
Et ça, c'est vrai que c'était sa particularité. Il était très en avance sur son temps, sur le côté finalement le raisonnable d'acheter des produits qui sont proches de chez nous, d'avoir une sorte d'écosystème qui soit tout simplement logique, du local et les saisons. C'était aussi un des premiers à dire un pâtissier ne doit pas vendre de tarte aux fraises au mois de janvier, ce qui moi aujourd'hui me paraît évident. Et malheureusement, même des grands pâtissiers aujourd'hui font des pavlovas. Je trouve que c'est dommage.
On est d'accord.
Il y a un truc qui est dans la saisonnalité qui est génial. Moi, j'adore quand je vais acheter justement le chou, l'hiver, les poires, et que j'attends patiemment le mois de mai ou de juin pour
les cuisiniers se sont mis à la saisonnalité, mais les pâtissiers ont un peu de retard parfois.
C'est vrai que c'est quelque chose, sans taper sur mes amis pâtissiers, mais c'est quelque chose qui est complètement ahurissant et étonnant. C'est qu'ils respectent rarement, vraiment très rarement les saisons.
Le pire, c'est la Saint-Valentin.
Oui, les framboises de Saint-Valentin.
Plus de Noël.
Ah oui,
c'est l'heure du plat du jour, les amis. On s'est renseigné, Jonathan Lambert, vous aimez la brandade.
Ah ouais.
C'est vrai, ça ?
Moi, j'aime beaucoup le poisson. Et tout ce qui est poisson, justement les poissons pas nobles, vous voyez, la sardine, le maquereau, l'anchois, la brandade qui est finalement un peu un plat rustique, on va dire. Et bizarrement, je n'aime pas le hachis parmentier. Alors que c'est un peu l'équivalent, enfin son frère de viande. Quoi.
Si vous parlez de la brandade avec la purée de pommes de terre, mais on va en parler parce qu'il y a débat. Alors d'où vient-elle cette belle brandade, Charlotte ?
Eh bien, elle vient du restaurant Chez Michel, rue de Belzins, dans le 10e, si je prononce bien.
C'est ça.
C'est le chef Masahiro Kawai qui a réalisé cette brandade. C'est, on pourrait dire, le plus français de nos chefs japonais. C'est incroyable. Il n'y a pas un soupçon de sauce soja ou de yuzu dans sa cuisine. Il adore les techniques françaises, la tradition française. Et il fait une cuisine très classique, mais de très haute voltige.
Alors, elle vient d'arriver, cette brandade, au studio Coluche. Jonathan Lambert est en train de la déguster. Une brandade avec de la pomme de terre, de la morue effilochée à l'intérieur. Et puis, elle est bien gratinée à la surface. Alors, au niveau du goût, qu'est-ce que ça donne, Jonathan ?
Alors,
j'adore parce qu'il y a un petit peu de texture sur la pomme de terre. Ah, c'est pas juste la purée compotée. Quoi.
Émiettée.
Voilà, c'est ça.
Écrasée.
Et on sent bien également les morceaux de poisson qui sont pas non plus trop... Non, donc il y a cet équilibre entre presque deux matières. Quoi, et puis, elle est bien, bien gratinée.
Elle a un fil tendu sur le sel.
Oui, absolument.
Voilà. Mais c'est juste ce qu'il faut. Parce que c'est vrai que la brandade, il faut qu'elle soit salée. C'est de la morue salée, donc il faut qu'on ait ce iodé du sel. Et là, on l'a vraiment. On est juste à la limite de ce qu'il faut.
Cette brandade n'a rien à voir avec la vraie brandade originelle que les Nîmois connaissent, hein, qui est la brandade de Nîmes, voilà. Qui n'a pas de pommes de terre dans sa recette. Hein.
Ça, c'est vraiment une brandade. Alors, pour mon papa, qui était charcutier traiteur, c'est vraiment la brandade des traiteurs.
C'est vrai.
C'est ce qu'on peut appeler une brandade parmentière. C'est-à-dire qu'il y a ce rajout de pommes de terre, de pommes de terre dedans.
Et alors le chef a 3 petits tours de main, si vous voulez, qui nous a donné. C'est que la pomme de terre, effectivement, elle est revenue dans une garniture aromatique, hein, carotte, poireau, oignon. Et la cuisson des pommes de terre, elle se fait dans le lait qui a servi à dessaler ladite morue. Et la purée, ensuite, elle est montée à l'huile d'olive. Donc, il y a quand même un petit peu de boulot derrière.
On va revenir sur la brandade traditionnelle, Yves. Hein, comme on
ça veut dire qu'il
n'y
a pas de pommes de terre dans la brandade.
C'est de la morue dessalée, bien sûr, qui est pochée, après qui est émiettée et qui est montée à l'huile d'olive et à l'ail, comme un peu on monte une mayonnaise.
C'est comme un aioli ou une
mayonnaise.
C'est comme un aioli. Georgiana View au restaurant rouge à Nîmes, qui fait une très belle brandade dans les règles de l'art.
Et d'ailleurs, c'est la brandade nîmoise.
Oui, elle est très onctueuse, cette brandade, effectivement, la vraie brandade nîmoise.
C'est vrai que c'est complètement différent. Il n'y a pas cette rondeur que la pomme de terre peut apporter, ce corps gras que la pomme de terre peut apporter. Mais par contre, on est vraiment dans la morue. dans l'excellence de la morue.
C'était une question
c'est
de conservation.
Deux recettes différentes.
Bah oui, parce que Nîmes n'est pas au bord de la mer, donc c'est étonnant cette espèce de tradition de brandade à Nîmes. Elle vient d'où, vous savez ?
C'est un cuisinier aussi qui a perpétré cette tradition, Yves, qui en a fait vraiment un plat emblématique de Nîmes.
Oui, on a des recettes qui apparaissent, c'est en 1830, c'est Charles Dunant voilà, qui a donné les lettres de noblesse à cette brandade et qui l'a appelée la brandade de nîmoise.
D'où ça vous vient, vous, cet amour de la brandade, Jonathan ?
Je ne sais pas. J'aime beaucoup j'aime beaucoup le poisson, ce côté. J'aime beaucoup tous ces goûts qui sont en fait proches de la conserve. Hein. D'ailleurs, j'adore les conserves de sardines, les anchois, évidemment la poutargue. Je suis un passionné de poutargue.
Les œufs de mulet séchés.
Ah ouais. Ou le haddock. D'ailleurs, chez Mon Général, j'ai mangé un haddock merveilleux quand il est après avoir été poché comme ça. J'adore tous ces goûts-là, ce sel. En fait, pour moi, c'est la tout ce qui est j'ai un trou là, ce qu'on appelle ce sont les salaisons, les
la saumure.
Oui, non, mais quand on parle du saucisson, la charcuterie de la mer. Voilà, je cherche. pourtant, c'est vraiment un mot.
La
charcuterie de la mer, tout ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire,
mais
ce côté conserve. J'adore cette cuisine là. Je suis le plus heureux, moi, quand j'ouvre une bouteille, une boîte, décidément.
C'est le Beaujolais nouveau.
Voilà, quand j'ouvre une boîte chez moi et que j'ai rien à manger, que tout d'un coup, je me dis, il me reste une bonne boîte de sardines ou des maquereaux vin blanc.
Moi j'adore ça. Il faut toujours avoir des boîtes de sardines à la maison.
La brandade, c'est vraiment, je trouve, l'image de la cuisine traditionnelle française. C'est un plat qui a un goût, un seul goût dans l'assiette en finalité. On n'est pas en train de picorer, en train de faire sa cuisine dans l'assiette. Il y a juste le plaisir de manger l'identité d'un plat. Comme on mange une blanquette de veau, comme on mange un bœuf bourguignon. Voilà, c'est la typicité française.
Eh bien, merci à Masahiro Kawai qui a fait ses classes auprès de vous à la Régalade, hein, ce chef qui est chez Michel aujourd'hui dans le 10e arrondissement de Paris, rue de Belzunce, pour cette belle brandade gratinée.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Jonathan Lambert est notre invité. Vous pouvez l'applaudir en ce moment, le jeudi, le vendredi et le samedi à 19h30 à la Scala à Paris, dans le 10e arrondissement. Vous revenez d'une tournée dans toute la France aussi, Jonathan.
Hein. Oui, enfin,
petite tournée.
Une France réduite.
Une tournette.
Oui, parce que, en fait, vous savez, avec ce qui s'est produit. Moi, je devais jouer déjà l'année dernière. Les dates ont été annulées. Paris a été annulé. Et donc, il y avait déjà des spectacles qui étaient prévus pour deux. Parce que les salles sont réservées quand même très longtemps à l'avance. Et donc, on a dû faire avec les disponibilités qui restaient. Donc, il y a eu une petite dizaine de dates avant d'arriver à Paris.
Et oui, donc, tout de même. Donc, Rodolphe à la Scala, c'est en ce moment, jeudi, vendredi, samedi à 19h30. J'ai vu le spectacle, Jonathan. Et dans ce spectacle, vous dites que vous pourriez vous passer de manger de la viande, mais pas de porter des chaussures.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a
pas de vegan, c'est ça que ça veut dire.
Non, mais c'est ça, c'est sur cette attitude vis-à-vis de la. Je comprends tout à fait, hein, et moi je fais partie aussi de ceux qui. Alors le terme est un peu énervant aujourd'hui, flexitarien, mais j'essaye de ce qu'on disait, de manger raisonnablement de la viande, c'est-à-dire se dire je vais en manger une ou deux fois par semaine, pas davantage, et je pense que déjà si on va vers ça, ça va améliorer la condition animale. Mais donc, on peut aussi se poser la question sur tout ce qui est du ressort de la sellerie, c'est-à-dire les ceintures, les chaussures. Voilà. Et c'est vrai que, honnêtement, comme j'aime le poisson, mais même je suis un fan de légumes, je pense très honnêtement que je pourrais me passer et arriver à une nourriture végane.
Oui, oui, le végétal compte pour vous dans l'alimentation.
Beaucoup. Mais les chaussures, c'est plus compliqué. Une belle paire de chaussures en cuir.
Alors, je voudrais parler aussi d'une série sur OCS, la chaîne OCS, la série Jeune Égolerie, qui a reçu le prix de la meilleure série hein, lors du festival Sériemania. Vous interprétez Francis, 46 ans, qui est un père célibataire et qui va se mettre en couple avec Prune, qui a 25 ans. Voilà, c'est une série, c'est moderne, c'est frais, c'est décalé. Et vous dites, en tournant cette série, je me suis rendu compte que j'étais vieux, ce que je n'imaginais pas du tout. C'est ça ?
Non, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les discussions sur le plateau, il y avait certains sujets qui m'échappaient ou des références auxquelles je n'avais pas accès. Et c'est assez troublant de se rendre compte que ce qu'on est en train de tourner vous rattrape très vite dans la réalité. Mais c'est une super série. Agnès Surstel a fait un boulot
très, très belle série.
remarquable. Ouais, et c'est très, très juste, en fait. C'est très, très juste, ouais.
On vous a vu cette année aussi au cinéma dans le film Attention au départ, hein, de Benjamin Evrard, qui est une comédie familiale avec André Dussolier, Jérôme Commandeur. Vous faites un super contrôleur de SNCF. C'est un vrai personnage. Non. Et puis, vous avez un beau rôle qui est vraiment... qui explose. Et vous êtes complètement dans ce rôle dépassé par les enfants. Et vous parlez des enfants dans votre spectacle Rodolphe sur scène. Et vous parlez des dessins d'enfants. Ça m'a fait rire.
J'ai un peu d'expérience. C'est-à-dire que quand on a eu 3 enfants, on commence à maîtriser un peu le dossier. Mais voilà, je m'arrête là. Non, mais mes enfants, ils n'ont pas encore vu le spectacle. Ils vont venir bientôt.
Et c'est vrai que les maisons d'enfants, il manque un truc dans les maisons d'enfants qu'on dessine.
Oui, je parle du dessin de mon fils où il met par exemple que des balais, il n'y a pas de soubassement, ou alors cette exigence qu'on peut avoir. Enfin, en fait, on n'a plus d'exigence vis-à-vis de ses enfants. On s'extasie souvent devant des trucs moches sous prétexte que ce sont des enfants, et encore plus quand ce sont nos enfants. Et donc là, je raconte l'histoire d'un père que je peux être parfois, où je suis très intransigeant, et quand une maison est mal dessinée, qu'il n'y a pas de soubassement et qu'il y a des fenêtres juste en façade, ça m'énerve. Donc j'explique à mon enfant que sa maison, elle n'est pas viable. Voilà, si on donne ça pour un anarchie, ça ne fonctionnera pas.
On parlait de votre formation en cuisine auprès de Jean-Pierre Coff. Charlotte, qui est en face de vous, eh bien, vient de suivre une formation en cuisine dans la fameuse école Ferrandi. Une formation courte mais intense, hein, Charlotte.
Oui,
hein.
Oui, il existe là-bas, entre autres, hein, une formation qui n'est pas un CAP, mais une session de 3 semaines de cours où on passe en revue les fondamentaux de la cuisine professionnelle. Alors j'ai voulu, aller voir de plus près ce que c'était concrètement que d'apprendre la cuisine, sous le regard de Yves Condebord.
Non, je suis admiratif.
Voir aussi quel public suivait ces cours, hein, parce que les reconversions dans le domaine culinaire, elles sont devenues très nombreuses actuellement chez les adultes. Et puis enfin, par intérêt culinaire, hein, parce qu'on promettait d'aborder les bases historiques de la cuisine.
Mais c'est ouvert à tous.
Française. Oui, c'est ouvert à tous, c'est pour ça que je vais vous en parler.
Alors, est-ce que la magie des fourneaux a opéré ?
Alors, en tout cas, oui, j'ai compris. Quand on entre en cuisine, presque comme en religion, hein, dans cet univers clos où les fourneaux sont rois et où le savoir-faire est d'une très grande richesse. Hein. Alors on apprend tous les taillages, les brunoises, les juliennes, la mirepoix. On émince son escalope, on monde les tomates, on habille le poisson et la volaille.
On se brûle,
on se coupe, on braise. Bref, on voit concrètement tout le travail qu'il peut y avoir dans une assiette et toutes ces techniques qui ont fait justement l'histoire de la cuisine. Faire un fond brun ou blanc, une sauce madère, un jus de poulet, une glace de viande, clarifier un bouillon, c'est quelque chose. On prépare une marinade pour un saumon gravlax, on glace des petits oignons nouveaux, on fait son foie gras, save gougère, une croûte d'herbe pour un carré d'agneau, ou une farce et une pâte feuilletée pour un pâté charcutier. Le programme est très bien rempli.
Mais c'est intéressant parce que vous êtes journaliste gastronomique, hein, vous écrivez pour le Journal du Dimanche et vous êtes ici régulièrement à cette table, donc ça veut dire que vous avez découvert l'envers du métier de cuisinier. Là.
Bah oui, évidemment, on s'en doutait quand même, mais les vraies cuisines ne ressemblent pas à celles des plateaux télé quand même. C'est un sacré métier que vous faites, Yves, à la fois généreux, technique, créatif, mais aussi énergivore, minuté, intense. La cuisine, c'est un peu un ogre, hein, qui réclame toute votre attention. Physiquement, il faut tenir le rythme.
Ah oui.
Des heures debout, porter des marmites, se couper, se brûler, comme vous disiez, tenir la chaleur des feux. Avis donc aux amateurs très tentés par la reconversion, ces 3 semaines de formation, elles sont trop courtes, évidemment, pour faire de vous un chef accompli, hein, mais elles sont assez longues pour tester votre envie, votre résistance et mettre votre passion à l'épreuve de la réalité. Donc, utile avant de poser sa démission. Hein.
Alors, verdict, vous restez journaliste ou vous montez un resto, alors ?
Alors, pour le journalisme, je ne sais pas, mais pour la cuisine, mieux vaut que je reste journaliste. Mais en revanche, je salue vraiment Agnès, Yann, Samrak, Charlotte, Valérie, Raphaël, Kevin et Guillaume, mes camarades de brigade, bons vivants, gastronomes qui ne manquaient pas de passion pour mijoter une viande pour notre grande tablée ou un petit foie gras pour un dîner aux chandelles. Et puis, je veux vraiment faire un clin d'œil au chef Frédéric Lesourd, dit Fredo, un personnage de cuisine comme on n'en fait plus, généreux, fort en gueule, précis, doté d'un certain sens de la blague, qui vous apprend que certains poissons cuisent de peur, que le beurre, c'est la vie et qui court après ses pochons dans toute la cuisine. Alors merci à lui et message de service à mes petits camarades. J'ai hâte de m'attabler bientôt dans vos futurs établissements.
Eh bien, on salue tous les formateurs cuisiniers aussi qui nous écoutent. Belle initiative. Bravo Charlotte Langrand. Jonathan, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance ?
La banane, je crois, c'est ça. Non, parce que ma mère me faisait très souvent des bananes écrasées quand j'avais le blues et c'est avec juste un filet de citron.
Et vous le refaites à vos enfants ?
Je leur ai conseillé, mais j'ai l'impression que c'est hyper ringard maintenant. c'est pas 2.0.
Quel est votre plus beau repas, Jonathan ?
Celui qui se finit par un cigare. À chaque fois que j'ai envie d'allumer un cigare, c'est que j'ai bien déjeuné ou bien dîné.
C'est votre côté Jean-Pierre Coff, ça aussi.
Ou mon père aussi, il fume le cigare.
Votre pire repas ?
Bah, à chaque fois que je prends l'avion.
Ah oui, ça progresse pas trop. Hein.
Non, pas. À moins d'être vraiment en première sur Emirates.
Mais qui sont
ça
les
fait cher le dîner.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Oui, je dirais alors Cadmerade, parce qu'on, je sais qu'il aime beaucoup ça.
Ah oui, il est venu voilà, la table on a tourné du dimanche ensemble et il nous a régalé. Voilà.
Fred Testo, parce que c'est un ami que c'est aussi un dingue de ça. Et j'ajouterais Winston Churchill.
Ah, pour le whisky et le cigare
ouais,
aussi.
Ouais, exactement.
Votre adresse secrète, Jonathan Lambert?
Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est. Oui, mon général. Je suis quand même
de Stéphane Reynaud.
Ouais, j'adore. C'est,
très, très belle temps. Adresse. Ouais. Les auditeurs le connaissent parce qu'il écrit beaucoup de livres consacrés à la cuisine bistrotière. Son dernier, d'ailleurs, s'appelle Bistrotier. Il vient de sortir. Il avait fait un très beau livre autour des cochonailles qui s'appelle Ripaille aussi, qui est un beau bouquin. Et le mot de la fin, FIM, Jonathan?
J'ai entendu Gravelax tout à l'heure. Je trouve ça joli.
Oui,
et puis j'adore.
Et on approche des fêtes, donc voilà. Ça tombe bien. Merci Jonathan.
Merci à vous.
C'est un plaisir. Votre nouveau spectacle, Rodolphe, c'est en ce moment depuis jeudi dernier, tous les jeudis, tous les vendredis et tous les samedis à 19h30 à la
Jusqu'au 31 décembre.
Ouais. Jusqu'au 31
décembre. Je joue le 31.
Et, on viendra réveillonner.
Voilà,
on ira après.
Apportez votre tranche de foie gras.
Oui, parce qu'on peut ensuite manger après le spectacle.
Bien sûr.
Dîner.
Oh là là.
Allons dîner.
Ça m'a tellement repris là-dessus.
Pas le souper, mais dîner, absolument. On va dîner après le spectacle. Et puis la série Jeune Égolerie, hein, toujours sur SCS. Merci d'être venu.
Ouais, merci à vous. Merci beaucoup.
Bon dimanche. Merci beaucoup.
Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci Yves. Il est bien votre Beaujolais nouveau. Il est très bien. Merci Charlotte.
Merci Laurent. Merci.